Prologue. Automne 1794. Chapitre 1. Disparue, la céleste harmonie des archets sur les cordes, qui à l'instant le comblait en lui faisant oublier tout le reste. À leur place, les cloches retentissent dans la nuit d'automne, comme autant de membres le cherchant à tâtons, lui et lui seul, clamant à tout vent combien il est vulnérable. Tycho s'étonne, remonte les épaules et courbe le dos quand il quitte les ruelles et se hâte à découvert vers le grondement de l'écluse Polem. Un pavé inégal tord la boucle de son soulier gauche, mais il n'ose pas s'arrêter pour autant, et traîne le pied pour ne pas le perdre. Il est seul. Jarric n'est plus à ses côtés. Il a filé sans un mot d'adieu dans une rue traversière après avoir réclamé ses gages pour son dernier message. Seton ne s'en étonne pas. Il est ruiné. Sa vie mise à prix, les acheteurs se presseront au portillon. Plutôt se séparer maintenant que voir les liens noués par l'intérêt portés jusqu'à leur point de rupture. Un reste de confiance ne serait que trahison différée. Les vagues de la Baltique sont crêtées d'écume à perte de vue sous les étoiles. Sur le pont basculant, il doit se tenir à la balustrade pour ne pas glisser. Le vent jette violemment contre les pierres l'eau du Mélard, dont le ressac monte entre les planches disjointes. Un chuchotement semble se réjouir de son malheur, là où l'écume caresse le mur. La meute est lâchée à tes trousses. Toutes tes dettes arrivent à échéance, et tu n'as plus que le sang de tes veines pour les payer. Une fois sur l'autre rive, il trouve rapidement un fiacre dont le cocher s'est assoupi sur son siège, main sous les aisselles et menton sur la poitrine. Tycho Seton se blottit derrière ses vitres rendues opaques par les fissures et la crasse, tandis que les sabots des chevaux trouvent leur rythme. Les pétales tombés des rosiers s'accumulent au pied du mur, virevoltant à chaque coup de vent. Il frappe à la porte et siffle son nom à la servante avant de lui arracher le chandelier des mains. Elle est suffisamment soumise pour s'écarter de son chemin à peine la porte ouverte. Dès le vestibule, il sent l'odeur de la chambre et ce qu'aucun parfum ne peut plus masquer. Devant la porte de sa femme, il porte à son nez son mouchoir de soie parfumé, mais se ravise et le remet dans sa poche, refusant de lui témoigner la moindre réaction, ne serait-ce que du dégoût. La poignée en laiton est fraîche sous sa main qui s'y attarde dans un instant d'hésitation. Il la tourne, ouvre et pénètre dans la pénombre de la chambre à coucher. La puanteur qui l'attend de l'autre côté du seuil donne forme à l'obscurité elle-même, comme un brouillard ou une fumée. La flamme qu'il porte éblouit plus qu'elle n'éclaire, tandis qu'il traverse la chambre. Il pose le chandelier sur une crédence et reste un instant immobile dans la grande ombre du lit à baldaquin. Des voiles de mousseline en dissimulent l'occupante. Tycho attend que s'apaisent les battements de son propre cœur, et, quand ils ont retrouvé leur rythme, il l'entend. Une respiration calme et mesurée, et non les ronflements d'une personne endormie. Le dépit l'envahit. Il est déjà en position d'infériorité. Elle est couchée là, comme une goule dans sa tanière, et l'observe avec toute la patience acquise durant ces années, à laquelle la sienne ne pourra jamais se mesurer.
« Mon cher Tycho, comme j'ai attendu !»
Seton frissonne à sa voix. Il sait quelle forme dissimule ce timbre trompeur. Sa paralysie l'a fait déborder de toutes parts, mais sa voix demeure celle qui sortait jadis de la frêle poitrine d'une jeune fille. Ses tourments doivent être effroyables, mais à l'entendre on dirait qu'elle les déguste avec satisfaction, comme un vin sucré. Seton sent sa sueur ruisseler sous sa chemise, tandis que ses lèvres forment une réponse.
« Miranda !»
Elle éclate de rire en entendant son nom. Tycho sent sa langue enflée dans sa bouche. Sa pensée devient aussitôt lente et rétive, et il ne peut que lui laisser prendre l'initiative qui vient de lui couler entre les doigts.
« Ah, Tycho, ta voix, c'est qu'elle tremble !» Et devant ta propre femme. Mais le mérite de cette timidité ne me revient sûrement pas à moi seul. Les cloches ont sonné pendant des heures. J'ai envoyé la petite Gustava sur la colline pour voir. Elle m'a dit que Kungsholmen est en flammes. et te voilà qui accourge en bas ton cou. Et dans quel état encore? C'est que tu as trempé de sueur ta chemise et ton habit, et ton angoisse pue à faire pâlir ma jambe gangrénée. Allons, dis-moi, que t'arrive-t-il, mon chéri?
Sa langue a toujours su fouetter ses points les plus sensibles, ce qui a jadis causé sa perte. Le mépris brûle dans chaque mot. La douleur anéantit toute velléité d'éloquence. Il parle librement dans un chuchotement chargé de colère.
« Dans quelle mesure tout cela est-il ton œuvre, Miranda ?»« Ah, Tico, tu comprendras bien qu'il est difficile de le savoir à coup sûr, pour quelqu'un qui n'est pas même capable de lever le petit doigt de son drap. Mais j'espère sincèrement que mon influence est au moins un peu pour quelque chose dans cette catastrophe qui te frappe, car j'y ai assurément contribué de mon mieux. »
Elle bouge la tête sur l'oreiller. Sa petite clochette tinte.
J'ai eu une visite, Tico, une que j'avais longtemps espérée en vain. Et je dois avouer que d'abord, elle a été loin de combler les attentes tissées par mes rêves éveillés. Un grand et un petit. Le grand si usé et éprouvé qu'il avait presque perdu figure humaine, et avec un bras de moins par-dessus le marché. Le petit... Chez lui, tout ne tournait pas rond. La chose sautait aux yeux. Je n'ai pas douté que leur entreprise était sans espoir. Qui pourrait prendre au sérieux pareil gueux, même avec des aveux et des preuves à l'appui? Mais le manchot, il était consumé par une telle colère, une rage à faire cloquer le papier peint des planches du mur. Je me demande de quel mensonge, de quelle vantardise sur tes méfaits tu les as abreuvés. Bref, je l'ai envoyé au théâtre anatomique dans l'espoir qu'il te tuerait sur place dans un accès de fureur. Mais j'ai dû sous-estimer la maîtrise de soi de ce gars. C'est tout. Je leur ai bien sûr aussi parlé de toi, mon cher Tico, et de tes nombreuses turpitudes. Mais je n'ai pas tout dit. Pourquoi ? La terreur t'a bouché la tête. Tu sais très bien pourquoi. De toute façon, je ne leur donnais pas beaucoup de chances de réussir, ni d'un côté ni de l'autre. Mais si ce duo mal assorti ne revient pas avec une soif de savoir décuplée, d'autres le feront bientôt. Alors je leur dirai tout, à moins que tu me donnes ce que je désire depuis si longtemps.
Il attend qu'elle poursuive, tandis que les battements de ses veines lui compriment de plus en plus vite les tempes.
« Maintenant tu vas me libérer, Tico. Je ne t'ai pas donné d'autre choix. Je sais que tu as coutume de laisser les autres faire pendant que tu les regardes. Non, inutile de chercher Gustava. Elle n'est plus là, je lui ai conseillé de fuir sans jamais se retourner après t'avoir ouvert la porte. Cette nuit, pour une fois, il te faudra faire toi-même la besogne. » Et pendant que tu le feras, puis tant que tu parviendras à prolonger ta misérable vie qui désormais ne vaut plus rien, tu garderas bien cette idée en tête. J'ai gagné, Tico. La dernière partie qui s'est jouée entre toi et moi, je l'ai remportée. Et toutes les années que j'ai passées sur ce lit, chaque heure et chaque minute, en sont pleinement récompensées quand je vois ta misère. Te souviens-tu du jour où je suis devenue ton épouse? Je te trouvais beau alors, avant d'apprendre à mieux te connaître. Mais tu es mille fois plus beau pour moi aujourd'hui, terrorisé et humilié. Allez, dépêche-toi donc, mon chéri, car ton domicile est connu et tes ennemis aspirent à la vengeance. Cette défaite n'est sûrement pas la dernière. Qui arrivera en premier à ton avis? Le boudin manchot et le fou malingre? Tes anciens frères de l'ordre? L'un des nombreux nobles dont tu as abusé? Quelle main te prépare le pire destin? S'il existe un dieu, il ne pourra me refuser de l'entrevoir, serait-ce des profondeurs de mon enfer. Mais tout ça, d'autres s'en soucieront. Fais maintenant ce qu'on t'a dit avant qu'il ne soit trop tard.